Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 14 mars 2009. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h, du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie. À 15h, du reggae avec Zarma Farai et à 17h, FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans l'immédiat, voici...
Précédemment, dans le supplément week-end...
Mais il va pas réécouter l'émission, donc tu pourras le réécrire pour le speech de la semaine prochaine.
On fait le pari ?
Oui.
D'accord, copier-coller, voilà. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour voir si effectivement il tombera dans le piège stupide et ignoble et affreux qu'on lui prépare.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks avec du sport, Ultimatum, Das Critch et la participation exceptionnelle de JB.
Pauvre JB, s'il savait ce qu'on lui prépare tout à l'heure. Bonjour Thomas, comment vas-tu ?
Eh, très bien, excellent, et toi ?
Magnifique. Bonjour du sport, comment vas-tu ? Non, tu es en train de régler tes trucs. La grande sucette, part toujours parfum fraise. Et Thomas, lui...
Le beau temps revient, c'est cool.
C'est cool, c'est magnifique, hein, il fait beau et tout ça. Et pourtant, lundi soir, on va s'enfermer devant la télévision. Alors, du sport... lundi soir, qu'est-ce que tu as d'inintéressant sur lequel tu vas zapper tout lundi?
Ah bah attends, c'est pas à moi maintenant, hein. C'est pas l'heure de ma rubrique là pour l'instant.
Non mais juste comme ça, vu
c'est
de nez.
C'est juste comme ça, vu de nez.
Alors lundi, qu'est-ce qu'on a lundi? Un très beau téléfilm sur TF1 qui parle de pompiers. Ça vous dit?
Les pompiers, c'est parce qu'en ce moment, point de vue audience, ça cartonne pas le lundi.
Exactement, ouais. Ils se font niquer par France 2, figure-toi.
Oui, ça m'étonne absolument pas.
Ah bah écoute, Anthony Lapaglia, c'est quand même quelque chose.
Oui, ah, c'est bien fort, disparu.
Avec Steven Weber en plus, ce qui ne gâche rien.
D'accord, ok. Mais qu'est-ce qui va se passer sur une fabuleuse chaîne cryptée ?
Ah ah !
Merde, attends, ça, je vais le démarrer, voilà. C'est les 20 ans des guignols de l'info. Et nous avons le plaisir, la chance et l'exception, je vais dire, d'avoir une des voix des guignols avec nous. Daniel, bonjour.
Bonjour, bonjour, bonjour.
Alors, Daniel Herzog est l'une des grandes voix, je vais dire, d'imitation que l'on a en France. Tu as pratiquement, je crois, plus de 110 voix à ton catalogue, un truc comme ça.
Moi, en catalogue, j'en ai au moins 300, oui, parce que ça fait longtemps que je fais ça, mais dans les guignols, j'en fais 80, 90, je crois, je sais pas, parce que ça fait 17, 18 ans que je fais les guignols. Donc, voilà, on s'accumule des marionnettes, et puis il y en a qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui réapparaissent.
Mais ça fait quand même un gros stock. Quand tu es arrivé au guignol, tu n'étais pas arrivé au tout début, il me semble,
Non.
C'était Yves qui faisait tout au début, Yves Lecoq.
Ouais. Oui, Yves, et il y avait Jean-Éric Biel aussi, et Béatrice Beltoise au début. Après, il y a eu Sandrine Alexis, et donc moi, je suis arrivé en 92 avec la marionnette de Bedos. Ça a été la première marionnette que j'ai fait parler. Voilà, alors, c'était un bonheur.
Avant l'arrivée des guignols, quand même, à la télévision française, on oublie, mais il y avait le bébé de show de Colaro sur TF1. Est-ce que tu penses que c'était...
Oui, qui n'avait rien à voir. Hein.
Oui, qui n'avait rien à voir, c'était plutôt droite, hein, on va dire. C'était plutôt une inspiration ou l'exemple de ce qu'il ne fallait pas faire?
Pas vraiment, c'est chacun son truc, mais les guignols sont directement dérivés de Speaking Image, qui est une émission anglaise.
Ah oui, sur ITV.
DeGrasse avait vu, ça veut dire portrait craché, en fait. C'était marrant comme émission, mais bon, ça partait un peu dans tous les sens. Il y avait Thatcher, il y avait tous les personnages politiques anglais. Et DeGrasse s'est dit, tiens, on pourrait adapter ça au monde politique en France, aux acteurs, aux people et tout ça. Et il a fait démarrer les guignols, qui s'appelaient les arènes de l'info au départ. Mmh. Et les arènes de l'info, c'était des petits sketchs, hein. Il y avait pas de, et la grande force des Guignols, ça a été à partir de la guerre du Golfe de 91, quand ils ont fait un vrai JT, enfin, un faux JT, mais un JT de 20 heures, comme on fait sur toutes les chaînes, présenté par PPD, avec des lucarnes, qui étaient comme censées représenter les duplex qu'on fait à l'étranger, tout ça. Et là, ça a cartonné, parce que Stallone est devenu le symbole de l'Amérique, le commandant Stallone qui expliquait la guerre et tout ça. Et là, ils ont fait un carton.
C'est avec le fameux décor, avec l'espèce de marbre ou de pierre un peu brisée, là. comme on les voit dans les best-of.
D'ailleurs, c'était un petit peu bizarre comme décor, parce que tout le public était obligé de se retourner, si je me souviens bien. Donc, c'était un petit peu torticolis pour ceux qui étaient en direct. Il y a peu d'émissions politiques qui ont tenu 20 ans, à part les 4 vérités dans Télématin. J'ai noté L'heure de vérité qui a tenu 13 ans, 7 sur 7 a tenu 16 ans, sur Arrêt sur image, face à face, je crois que ça a tenu, sur l'ORTF, pardon, a tenu une dizaine d'années. 20 ans, ça fait quoi? C'est se dire, chouette, l'émission a enfin le droit de vote, ou est-ce que finalement c'est un risque que ça tourne en rond?
20 ans, c'est de dire un truc, c'est l'âge de ménageuse. Et la chose, moi, je les fous dans un bassin, puis je les fais bosser toute la journée. Alors que les Guignols, si tu veux, ils ont le plaisir de se renouveler, quoi. Ceci dit, moi, j'avais une naseuse qui se renouvelait assez au niveau des mecs. Mais, non, c'est vrai que les Guignols se sont renouvelés systématiquement. Il y a eu changement d'auteur, il y a eu d'autres voix, il y a l'actualité qui fait que c'est quotidien et ça traite de l'actu et du sport et des people et tout, c'est très varié. Donc ça peut effectivement durer très longtemps. Mais c'est dans la tradition vraiment Guignols, la tradition même du fou du roi, quoi. C'est vraiment très français, hein. Je sais pas si ça peut exister à l'étranger, Daniel.
Ce qui est marrant d'ailleurs, puisqu'on parle de long terme, c'est que finalement, vous avez même dépassé PPDA.
Oui, on l'a remisé au placard. Non, mais on le garde le nôtre parce que c'est PPD, nous. C'est pas le A.
Il a toujours été circonspect vis-à-vis de sa marionnette, et maintenant il dit qu'elle trouve sympathique, finalement.
Oui, mais ils font tous ça, hein. Moi, j'ai rencontré Giroud quand je faisais Giroud. Il me dit, oh, ben, moi, je regarde pas ces bêtises-là. J'ai pas le temps. C'est mes joueurs que ça amuse. Puis, en fait, son fils, il m'a dit après, ben, à 8h05, faut pas le déranger parce qu'il regarde les Guignols. Luis Fernandez m'a dit la même chose, hein. Bon, mes joueurs, ça les amuse, mais moi, ça me fait pas rire, hein. Bon, et puis, en fait, ils sont devant les Guignols. Ils ont quand même une grande fierté à être marionnettisés, à être guignolisés, parce que c'est une reconnaissance, quand même, quelque part, quoi. Faut le dire. C'est une fierté pour eux, donc.
Est-ce que il y a des jours quand tu arrives, ça tique à la lecture du texte, où tu n'es pas exactement d'accord avec le traitement des sujets qui vous est livré par les auteurs?
Oui, ça arrive, mais d'abord c'est assez rare, parce que en général, moi je suis assez solidaire de cette émission, donc si j'y suis depuis 18 ans, il doit y avoir une raison, sûrement, c'est que je m'y trouve bien. Donc je m'y trouve bien, ça veut dire que j'ai pas de malaise. Alors quelquefois il y a des JT un peu moins forts, mais il faut aussi dire que c'est une quotidienne et c'est un boulot colossal, quoi, d'être drôle, d'être pertinent, d'être dans l'actu. Ça fait beaucoup de critères qui sont de critères imposés, hein, qui sont difficiles à tenir, quoi. Donc quelquefois ils sont un peu en dessous, quelquefois ils sont carrément géniaux. On se marre du début à la fin. Donc voilà, sur l'ensemble, il n'y a pas de souci. Hein,
il y a combien de... Puisque tu dis comme tu dis, c'est une quotidienne, c'est une émission qui est assez lourde, qui est en direct intégral pendant plus de 5 minutes.
Ah oui, en plus, oui, c'est en direct, oui.
Et excepté des sketchs préenregistrés, mais là, on comprend aisément pourquoi. Il y a combien de personnes qui interviennent à la fabrication de cette émission les auteurs, les marionnettistes?
Avec les marionnettistes, ça fait environ 300 personnes, hein. Mais bon, il y a trois auteurs déjà qui écrivent. Après, nous, on a le texte vers 17h avec les voix. Donc Yves et moi, on est en quotidienne vraiment depuis des années, des années. Sandrine et Nicolas Canteloup et Thierry Garcia, maintenant, qui nous a rejoints, on les appelle au jour le jour quand il y a des marionnettes pour eux. Et puis tous les marionnettistes qui sont à chaque fois pour le JT au moins une dizaine. Et puis il y en a une autre équipe qui est sur les tournages, puisqu'effectivement, il y a les séries qui sont tournées... les petits sketchs filmés qui sont au milieu du JT, ça c'est filmé donc comme un film. Hein. Donc il y a les réalisateurs, il y a les maquilleuses, il y a les habilleurs, c'est incroyable, quoi. Ça fait environ 300 personnes.
Oui, c'est quelque chose.
Pour une petite émission de 10 minutes, c'est pas mal.
on sent vraiment de ce côté-là vraiment la machinerie lourde. Hein.
Oui, ils se sont donné les moyens, mais déjà au départ, De Grève voulait avoir quelque chose de costaud, quoi, de bien fait. Et je crois que la réussite des Guignols, c'est que tous les gens qui travaillent dedans, depuis les auteurs jusqu'aux habilleuses, aux maquilleuses et aux marionnettistes, font ce qu'ils savent faire de mieux, quoi. Ils mettent le meilleur de ce qu'ils savent faire dans cette émission. C'est pour ça que ça donne une espèce de côté un peu une perfection. Et pour lutter contre ça, c'est vrai que bon. Il n'y a pas beaucoup d'émissions qui peuvent rivaliser avec ça. Je crois qu'à une époque, c'était la minute la plus chère de la télévision, ces petites marionnettes.
Et justement, ces tournages...
C'est quand même... Mais c'est un gage de qualité en même temps.
Et justement, ces tournages, y compris l'enregistrement de la voix et le tournage justement visuel, vous le tournez ça quand ? C'est dans la matinée, c'est dans l'après-midi, avant que vous receviez le texte de la quotidienne ?
La quotidienne, bon, bah, on a les textes à 17h pour le JT du soir qui est en direct, et les séquences filmées, on enregistre tous les mardis matin 4-5 sketchs. Nous, on fait les voix pour qu'eux, après, aient une quinzaine de jours pour les tourner. Donc voilà, ils les tournent comme un film, hein, mais c'est enregistré de façon à ce qu'ils puissent reprendre, commencer, machin. Nous, on peut pas être là sur le plateau quand ils tournent, parce qu'il faudrait refaire les séquences 15 fois, comme au cinéma, quoi. Donc on enregistre avant les sketchs. Et puis une fois qu'ils sont tournés, on fait des petits raccords dessus, s'il y a une marionnette qui ouvre la bouche un peu trop, ou s'il y a des petites phrases à retoucher, quoi. Mmh. On fait de la post-synchro après dessus.
Alors moi, il y a une question qui m'a toujours taraudé, c'est comment se crée une voix ? Est-ce que la production vous impose un personnage et vous choisissez entre les imitateurs ? Ou est-ce que c'est l'un ou l'une d'entre vous qui débarque un jour à midi en disant « ça y est, je peux faire Cyril Lignac ?»
Alors, il y a deux formules. Enfin, la formule la plus courante, c'est que les auteurs ont une idée avec un personnage. Donc, on prend des cassettes et des vidéos et des machins et tout, et on travaille sur la voix. Alors, pour les garçons, entre nous, chacun travaille de son côté, puis après, on essaye, et puis ils choisissent ce qui les amuse le plus. C'est pas toujours l'imitation la plus parfaite, parce que c'est quand même de la caricature, donc c'est ce qui les amuse le plus, on va dire. Ça les fait rire, voilà. Après, on peut aussi leur suggérer. Moi, je me souviens d'avoir suggéré Guy Roux à l'époque à Jean-François Alain, qui était un des auteurs phares des Guignols, avec Delepine. Et un jour, je lui dis, pourquoi on fait pas Guy Roux ? Il est marrant et tout. Dans le monde du football, ça les intéressait, donc ils ont mis Guy Roux. Mais moi, je le faisais déjà. Je leur ai suggéré Apathy, parce que Apathy, je le vois tous les soirs. Et forcément... Et je dois dire d'ailleurs que c'est une idée formidable, puisque maintenant nous avons ce journaliste tout à fait particulier et qui a cet accent tout à fait chantant et qui émerveille absolument tout le monde. Donc voilà, je me suis amusé à faire Apathy, mais ça je le voyais tous les jours à l'antenne, donc je le faisais quotidiennement, quoi. Voilà. Donc ça je leur ai dit, mais pourquoi on fait pas Apathy ? Puis ils l'ont fait. Alors ça arrive quelquefois.
Est-ce que quand vous voyez la marionnette qui a été créée, est-ce que le design de cette marionnette influence la voix que vous allez lui donner ?
Ah oui, parce que moi non seulement je fais des voix, mais j'ai aussi cette faculté de faire des accents. Donc on a des Russes, des Chinois, des petits gosses, des titis parisiens, des machins, tout ça. Moi je fais souvent ces anonymes-là. Et tous les anonymes, par exemple, quand on voit leur tête, ça nous donne l'idée de leur mettre un accent, une voix un peu plus comme ça, ou un peu plus légère. Voilà, donc ça, oui, effectivement, la marionnette influe sur la façon de le jouer, de le faire vivre. Ouais. Mm.
Est-ce qu'il y a, parce que tu as vraiment plein de voix à ton palmarès, il y a certaines imitations que tu regrettes qu'elles ne soient pas utilisées par au Guignol?
Oui. Bah, par exemple, on a la marionnette de Boringer, il la sort jamais. Bon, c'est vrai qu'il est plus dans l'actu, mais même quand il y était, il n'y pensait pas.
Et pourtant, moi, j'adore ça, moi, Boringer, hein. C'est pas bien, ça, ma poule.
Voilà, c'est une voix formidable. Et puis Lucchini, ils n'ont jamais voulu faire la marionnette. Je discutais un jour avec Gassio, il me dit, mais on fera jamais plus drôle que lui, parce qu'il en fait tellement sur les plateaux de télé et tout, que nous, on va faire une caricature de ce qu'il lui fait déjà au 250e degré, quoi. Donc voilà, ils n'ont jamais fait Lucchini, c'est dommage. Ça aurait été un personnage, parce qu'il y a un type qui est capable de partir de La Fontaine pour arriver à Claude François en passant par celui de Nietzsche, c'est quand même assez rare comme personnage, quoi. Donc...
Moi, je trouvais que c'était une idée formidable, mais bon, ça les a pas interpellés, c'est dommage.
Voilà, c'était un beau personnage, mais bon.
Alors comment
on en a d'autres, hein.
Et
là, on vient d'avoir Besson, qui est quand même pas mal. Ça, c'est Yves qui le fait, mais je pense que je vais faire Dominique Besnéard, parce qu'ils vont la jumeler avec Ségolène, sûrement.
Et ça, je dois le dire, c'est quand même un vrai bonheur, parce que là, je vais pouvoir faire du casting. Alors, je vais mélanger Ségolène Royal avec Brad Pitt, ou je sais pas, je vais faire du casting improbable, et puis on va bien se marrer.
Voilà les projets.
Comment vous faites pour la voix quand vous prenez froid ? Ou alors, est-ce que vous calfeutrez chez vous et oui, c'est interdit, vous pouvez pas tomber malade.
Non, c'est interdit d'être malade. Yves et moi, on est interdit de maladie. C'est impossible, c'est indirect, et donc il nous est arrivé d'avoir de la fièvre, d'avoir la crève, d'être. Moi, j'ai fait des Jospins un peu enrhumés, ça arrive. Ben, on a un rhume, il a un rhume, tant pis. Mais on peut pas s'arrêter, on peut pas ne pas être là. Ouais, c'est une contrainte tout à fait agréable, mais c'est une contrainte quand même d'être.
Alors bon, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en direct tous les soirs. Comment ça se passe en fait en journée? Comment ça se passe? Je suppose que vous répétez avant, enfin je suppose pas.
Ah bah oui, bien sûr, oui. Alors les auteurs, eux, écrivent depuis le matin, hein. Je sais pas s'ils arrivent à 9h ou à 10h, ça dépend comment ils sont en forme, ce qu'ils ont fait la veille. Mais enfin, ils ont toute la journée pour écrire. Nous, le truc, c'est qu'on est le JT écrit à partir de 17h. Parce qu'à 17h, on est sur le plateau, on fait une première lecture avec tout le monde, les marionnettistes, pour qu'ils voient comment on joue, quel personnage, s'il y a des silences, des machins. Après, tout le monde va sur le plateau. Nous, on est dans une boîte où on a nos micros et des écrans de contrôle. Eux vont sur le plateau avec des marionnettes. Et on fait 3 répétitions dans les conditions du direct pour mettre tout en place, les caméras, le jeu, tout ça. On fait 3 répètes. Et puis après, on fait le direct à 8h-5. Donc entre 17h et 19h, 19h30, on est en répète. Mmh. On répète 3 fois. Il y a des petites lucarnes quelquefois qui sont enregistrées parce que la manipulation est difficile. Quand il y a des objets, des trucs comme ça, on prend pas le risque du direct. Donc ils enregistrent la petite lucarne. Et bon, ça se voit pas à la télé, mais je veux dire, c'est préenregistré pour que avec leurs grosses mains en caoutchouc, des fois, attraper un portable ou des petites choses délicates, c'est difficile à faire quand même.
Ouais,
c'est... Alors ça, on truc un peu, on enregistre, mais c'est très très peu. Hein. En général, tout est en direct. PPD est toujours en direct sur le plateau.
C'est des fois dans, enfin, c'est vrai que quand on re-regarde au Guignol de l'info, y a d'excellents moments de vulgarisation, mais c'est toujours avec Monsieur Sylvestre. Est-ce que finalement, à part la vulgarisation de l'économie, il n'y aurait pas d'autres thèmes que les guignols seraient bien, tu penses, serait intéressant qu'ils abordent?
Oui, peut-être, oui, c'est vrai. Bah, par exemple, on n'a pas la marionnette d'Angela Merkel, alors qu'on avait Helmut Kohl, il y a des marionnettes, on avait Tony Blair, on n'a pas Gordon Brown. Il y a des marionnettes qui vont peut-être venir, bon, mais on a déjà Berlusconi, on a Poutine, il y en a quelques-uns dans l'international aussi, mais c'est vrai que Stallone est le symbole même à partir de la Ward Company, il est le symbole même plus que de l'Amérique, il est le symbole de la finance, de la puissance, de cette société d'ailleurs qui est en train de se casser la figure, si j'ai bien tout compris, la société capitaliste. Et Stallone symbolise ça. Alors, c'est vrai que c'est notre symbole, voilà. Bon, c'est une référence, quoi, pour les guignols.
Sur ces 20 ans, quand même, il y a eu des années difficiles. Il y a eu la chute de Nulle part ailleurs. Il y a eu la période Messier. Il y a eu une perte d'indépendance. Est-ce que tu penses qu'elle a été retrouvée? Et qu'est-ce qui fait, justement, que vous êtes indépendant? C'est parce que c'est vraiment la vitrine de Canal? Ou parce qu'il y a tellement d'audience que vous êtes intouchable, maintenant?
Bon, il y a un peu des deux. C'est-à-dire que oui, c'est une vitrine de Canal, ça c'est sûr. C'est une référence Canal, puisqu'on est pratiquement la dernière émission du début de Canal, quoi. Mais Denisot aussi est une caution de Canal. Il est là depuis le début. C'est le seul animateur qui est resté depuis le début. Et donc, son grand journal, finalement, a fait oublier Nulle part ailleurs. Alors que c'est vrai, on a eu la période Guillaume Durand, Nagui, enfin bon, des choses un peu qui cherchaient, quoi. La suite de Nulle part ailleurs, qui avait été une émission tellement forte. Bon, c'est vrai que ça a pris, allez, 4-5 ans, hein. Mais nous, les guignols, on a traversé ça sans trop de problèmes. C'est juste les changements d'auteur qui ont été un peu difficiles pour les guignols. C'est-à-dire qu'on a eu Delépine et Alain ont arrêté, Bruno Gassio est resté, il a pris 2 jeunes auteurs avec lui. Et là, ça a été moins bon pendant presque 3 ans. Et puis, finalement, ils sont partis, ils ont abandonné cet exercice et, Lionel Dutemple et Julien Hervé sont arrivés avec Ahmed Hamidi. Et ces 3-là, ils ont sauvé les guignols parce que depuis 9 ans, c'est reparti. Ça fait 9 ans qu'ils sont là et vraiment, ils écrivent formidablement bien. Et ils ont sauvé les guignols parce que ça a redonné un coup de jeunesse dans l'écriture et tout. Et là, ils sont bien maintenant, hein, je trouve.
Chirac, dans une interview à l'AFP qui a été publiée hier, dit que c'est un programme drôle et populaire réalisé avec talent, donc je les regarde. Je trouve ma marionnette sympathique. Il reconnaît plus ou moins que vous l'avez fait élire finalement.
Non, ça, moi, c'est marrant, je suis pas d'accord avec cette théorie-là. Les Guignols ont mis l'accent sur les trahisons dont Chirac était victime. Mais quand il arrivait dans la lucarne avec un couteau planté dans le dos, il disait « Non, ça va, Darda, simplement ça pique un peu. » Et puis le lendemain, il arrivait, il avait 3 couteaux, 2 fourchettes. « Non, ça va, tout le monde est très gentil avec moi, ça pique un peu, mais ça va. » Et il a fini la fin de la semaine, je me souviens, avec un obus qui lui traversait le corps, et il continuait à dire « Non, non, ça va, ça pique un peu, mais ça va. » Bon, ils ont souligné toutes les trahisons dont il était victime. Balladur a quand même dit au mois de janvier, un premier ministre qui se présenterait à l'élection, ce serait indécent. Ce serait indécent. Et puis finalement, 2 mois après, il y allait. Je veux dire, Sarkozy, qui était vraiment au-dessus de Chirac et tout, d'un seul coup se met derrière Balladur. Enfin, il y a eu des trahisons de partout. Et je pense que les Guignols ont souligné ça, alors ça l'a rendu sympathique. Ils ont inventé le slogan « manger des pommes », qui était un truc aussi marrant que ce que peut faire ces gars-là. Et donc, c'est devenu un slogan. Mais je pense pas qu'il l'ait fait élire, parce que les Guignols n'ont quand même pas une grande influence. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, hein, sur les 3 millions et quelques qui regardent. T'as des gens qui ont même pas 18 ans, donc ils ont même pas voté. Donc, je veux dire, ça me fait rire, cette légende de dire « les Guignols ont fait élire Chirac ». Parce que finalement, il y a des mômes de 14-15 ans qui sont morts de rire, qui sont dans nos 3 millions de... Mais ils votent pas, ces gens-là. Donc, en fait, c'est complètement stupide de dire ça. Je pense qu'ils l'ont rendu sympathique, ça c'est sûr, mais il est sympathique, il paraît dans la vie, je le connais pas, moi. Mais et par contre, je pense pas qu'ils aient une influence réelle sur la politique. Ils ne soulignent que les choses qui sont évidentes, hein. Je veux dire, moi, quand on prend le journal tous les jours, et puis on sait à peu près comment ce que les Guignols vont faire le soir. Simplement, on ne sait pas comment ils vont le traiter, mais grand thème, on les connaît, hein. Ils n'inventent rien, finalement, en fait. Ils détournent l'actualité, ils la passent au crible, ils s'amusent avec, mais ils n'inventent pas, quoi. C'est pas de la fiction, hein. C'est la réalité, les Guignols.
L'un des épisodes les plus mémorables, ça a été le passage in extenso de la chanson des Vents Passent, Chirac en prison. Le particularisme, sachant que en fait Didier Vents Passent avait raconté pourquoi il a écrit cette chanson, c'était un exercice autour de la liberté de parole, et finalement ils se sont retrouvés bannis des grandes radios. Il n'y a que des petites radios, je vais dire, pitoyables comme nous, qui sommes amusés à le passer au moins 3 fois par jour. Le particularisme des Guignols, c'est que vous êtes les seuls à pouvoir parler finalement du pouvoir présidentiel.
Oui, c'est vrai que c'est devenu ce côté un peu institutionnel des Guignols. Je dis pas qu'ils sont intouchables, mais c'est vrai que ça a amené cette notoriété des Guignols, cette espèce de côté culte un peu de l'émission, nous permet effectivement de dire des choses que beaucoup d'autres gens ne pourraient pas dire, ouais. Parce qu'on est quand même sur une chaîne de télé qui, parce qu'on dit c'est Canal, c'est crypté, mais Canal le soir c'est en clair, hein, les Guignols c'est en clair, donc tout le monde peut le voir, hein. Il suffit de régler le canal de la 4, c'est Canal, c'est en clair jusqu'à 21h, donc effectivement les gens peuvent le voir. D'ailleurs, quand on nous dit 3 millions, c'est peut-être beaucoup plus que ça, puisque moi j'entends parler des Guignols partout dans toute la France quand je fais des galas, donc ils sont quand même nombreux à le regarder, hein, donc je ne sais pas comment c'est comptabilisé, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui les regardent.
Le fait que toute une génération n'est plus finalement que cette émission comme contact avec la vie politique, est-ce que c'est triste, ou est-ce que finalement ça amène une responsabilité, comme le revendiquent Jon Stewart du Daily Show et Stephen Colbert, ou encore d'autres humoristes?
Oui, non, je pense que c'est bien. C'est bien parce que c'est une émission qui est faite pour donner du recul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avaler les choses qu'on vous envoie dans la presse ou à la radio au premier degré, et notamment pas à la télévision d'ailleurs, puisque les images sont truquées, je veux dire, on fait ce qu'on veut avec l'image. On vous montre 150 personnes filmées en gros plan, et on vous dit qu'il y avait une manif absolument monstrueuse de 1000 personnes, on voit les 150 premiers en gros plan, et on a l'impression qu'ils sont 10 000 derrière. Ça, on peut le faire avec l'image, hein. Les Américains l'ont fait quand ils sont rentrés dans Bagdad, et je me souviens de cette statue de Saddam Hussein qui fout par terre, il y avait 4 pauvres Pékins autour, mais ils étaient serrés, ils ont pris un plan serré.
Qui étaient tous...
Milliers d'Irakiens font la fête et tout. Puis après, quand on a eu le plan avec le recul, ils étaient 4, quoi, je veux dire.
Et les Irakiens en question, d'ailleurs, c'était tous les chauffeurs des voitures des chaînes américaines.
Oui, c'est ça, en plus. Oui, non, mais on fait ce qu'on veut avec l'image. Moi, je sais tellement que tout ce qu'on peut faire avec l'image, quoi, c'est extraordinaire. Un bon montage fait une information complètement déformée. Donc, les Guignols, ça permet de ne pas avaler au premier degré toutes les infos, quoi. Et ça, c'est bien pour les jeunes. Moi, je trouve ça, c'est pas mal, quoi. S'ils décryptent le monde politique avec un œil critique, c'est plus intéressant que s'ils se font avoir avec des mensonges, souvent électoraux, d'ailleurs.
Alors, d'après toi, Daniel, est-ce qu'il est plus facile d'entrer au Guignol de l'info comme scénariste, comme imitateur ou comme guignolisé?
Comme quoi ?
Comme guignolisé.
Comme guignolisé, ah bah c'est plus facile comme guignolisé, hein, mon ami.
Et est-ce que la consécration, c'est être mis sur écoute par les renseignements généraux, avoir un contrôle fiscal téléguidé, recevoir la visite d'inspecteur du contre-terrorisme ou un carton d'invitation à un dîner de l'UMP ?
Oh la vache, ça c'est pas facile comme question.
Je t'avais dit que je serais pas tendre.
Ah oui, je ne sais pas. Vous pouvez répéter la question ?
En tout cas,
je ne sais pas. Franchement, je pense que fiché par les renseignements généraux, il y a longtemps que tout le monde y est. Donc, hein ?
Bon.
Je crois que c'est une constante de notre époque, ça.
Daniel, on te retrouve donc lundi.
Absolument.
Dans le son à 20h45, tu interviens aussi dans d'autres émissions, dont une sur France 3 qui s'appelle Les Grands du Rire.
Oui, ça c'est une émission de montage qui est assez marrante, qui est présentée par Yves Lecoq. Et moi j'ai choisi de faire que Columbo dans l'émission parce qu'il y a beaucoup d'imitateurs dans l'émission, il y a des séquences avec des imitateurs. Yves Lecoq fait la présentation avec des imitations. Donc je me suis dit ça va faire beaucoup, on va pas se mettre à 12 à faire des imitations dans la même émission. Donc j'ai pris le parti pris de ne faire que Columbo, l'inspecteur Columbo qui vient. Alors de temps en temps je viens embêter un invité, je viens raconter une vanne, je viens, voilà. Et c'est très amusant, ça marche très bien cette émission sur la 3. On a commencé ça il y a au moins 4 ans. Et c'est un bonheur. C'est très bien. Et puis, je trouve que c'est bien fait parce qu'ils retrouvent les vieux sketchs qu'on ne voit pas ailleurs. Bon, il y en a qui sont peut-être un peu répétitifs, mais par exemple, retrouver Fernand Reynaud ou Robert Lamoureux ou des humoristes qu'on fait, en fait, que maintenant il y a plein d'humoristes, et ben, c'est sympa, quoi. Non, moi j'aime bien faire cette émission. C'est très amusant. C'est sur la 3 et c'est autre chose. C'est très très sympa.
Merci en tout cas Daniel d'avoir consacré du temps pour nous répondre.
C'était un plaisir.
C'est un bonheur. En tout cas, ça, j'espère pour toi que ça va continuer encore longtemps et ainsi que pour les guignols. En tout cas, on te remercie. Moi, je voulais te faire un petit cadeau. J'ai eximé de ma sonothèque un Bourville, Les Rois Fainéants. Donc voilà, c'est pour toi. Ciao.
Ah bah c'est magnifique ça. Oh, bah, c'est agréable à entendre. Hein. Quel bonheur.
Merci.
Eh ben, bonne journée à vous, merci beaucoup. Au revoir.
Au temps, au bon temps, des rois fainéants, tic-tic-tic-tic, les jours et les nuits se passaient au lit, tic-tic-tic, traînés par des bœufs dans un char moelleux. On faisait Paris-Orléans en 3 ans, tout en taquinant les belles pucelles en passant. Au temps, au bon temps, des rois fainéants, tic-tic-tic. D'une main, on mangeait, de l'autre, on buvait, tic-tic-tic. L'amour se chantait sur des flûtes iodas et les belles offraient les trésors de leur corps au roi fainéant. Tic-tic-tic. Les baladins jouaient du bilboquet et les ménestrels grattaient leur vielle et tous les bouffons dansaient en rond. C'était toujours fête. Tous les Manon Badeau criaient bravo et parfois pour un privilégié, le bon roi disait à son bourreau coupez-lui la tête, ça lui fera les pieds, foutez-moi la paix. Au temps, au bon temps, des rois fainéants, tic-tic-tic. T'aurais une marraine, un beau diadème, tic-tic-tic. Parmi les oiseaux au bord des ruisseaux, je te vois quenouillant le lin. Enfin bref, comme dirait Pépin, chacun doit mériter son pain. Au temps, au bon temps, des rois fainéants, tic-tic-tic. T'aurais pas aimé me voir travailler, tic-tic-tic. Alors, mon amour, ne crie pas toujours, laisse-moi dormir et sourire au bon temps des rois fainéants. Tiki tiki tiki, des rois fainéants.
Bourville, les rois fainéants, juste après Daniel Herzog, la voix des guignols. Dans le supplément week-end sur Radio FMR 89.1 MHz. Mais de suite, ça faisait longtemps, c'est l'heure de la régie publicitaire.
Tout a commencé par...
Tiens, je suis mort.
Ils ont placé un homme à la tête de l'État.
Ouais, y'a putain, j'ai niqué couille mort.
Ils ont fait tomber les plus grands champions.
On trouve de plus en plus d'anabolisants dans les urines.
Mais si, pour s'adapter, il faut boire de l'urine, très peu pour moi.
Ils ont créé de véritables mythes.
Coco.
Et mis en déroute l'armée américaine.
Oh, bah c'était sur l'Afghanistan.
Ok, vas-y, nous on reste ici.
Leur pouvoir n'a pas de limite.
Bon allez, on se bigophone, hein.
20 ans que ça dure et vous n'avez encore rien vu. Découvrez les coulisses des meilleurs éditorialistes de France et la véritable histoire de l'humanité selon les guignols. Soirée spéciale, les guignols de l'info, putain, 20 ans, lundi à partir de 20h45 sur Canal+.
Allez, avions les bananas. À demain.
Ça faisait longtemps ce jingle.
Adios les bananas.
On va commencer.
On va quand même préciser.
Alors qu'on accueille JB parmi nous. Bonjour. Attends, tu voilà, n'as pas le micro voilà. Ouvert. Voilà.
Bonjour.
Bonjour. Mets-toi en place et doucement fais la proposition. Allez.
Voilà. Bon, on va quand même préciser quelle est la teneur de cette soirée sur Canal Plus lundi. Donc c'est à partir de 20h45. Alors tout d'abord, ça démarre à 20h45 par un faux documentaire qui va rentrer dans les coulisses de la rédaction du JT. De PPD, mais qui sera aidé bien entendu de Pujadas, de Fogiel, de Pernaud, enfin il y aura le service des sports, l'ensemble donc de la rédaction. Hein, ça c'est le faux documentaire, on va dire, sur les guignols.
En guignol, sera en guignol ou en vrai?
En guignol, avec peut-être des.
On n'en sait rien.
C'est des rumeurs qui circulent.
Voilà, ouais, ça c'est
fait,
le buzz. Mais
en préparant l'émission, il a failli me lâcher l'info, j'ai dit je veux pas savoir.
Voilà. Et ensuite, ce faux documentaire sera suivi par Il était une fois les guignols, donc l'histoire de l'émission où on pourra revoir hein, des extraits de sketch et l'historique hein, avec des interviews, des commentaires de ceux qui ont créé, de ceux qui ont contribué à cette émission Les guignols de l'info. Donc c'est lundi, je rappelle, à partir de 20h45 sur Canal+.
Encrypté,
yeah. Rediffusé le lendemain soir sur Canal+ décalé à 20h45 aussi.
Ok, on va entamer sortie bande dessinée et puis je sais pas, peut-être que JB lui il a un sujet. Hein. D'accord.
Voilà.
Sans commentaire. Pardon, excusez-moi. Non, c'était juste que je cale un CD derrière. On va commencer avec une bande dessinée donc qui s'appelle Chemin de fer de Cyril Pomès. Qui est un jeune auteur, même si c'est pas son premier bouquin, mais en tout cas, il a été graine de talent Alphard à Angoulême, si je me souviens bien, et il avait été bien remarqué quand même par ses premiers albums. Et là, donc Chemin de fer vient de sortir dans la collection Atmosphère chez Emmanuel Proust, éditeur. Elias, c'est le chef d'une petite garde campagne. Une de ces lignes de chemin de fer qui peuple les campagnes sauvages et donc les immenses machines de fer et de vapeur rythment la vie de la communauté. Mais un jour, ce sont les objets trouvés qui vont troubler sa petite vie. Une carte postale laissée à son oncle mort depuis 2 mois, plus tôt, et une malle imposante et lourde qui semble avoir été oubliée cette matinée. Et qui intéresse deux messieurs aux très gros bras qui s'expriment d'une façon courtoise mais ferme. Il y a comme qui dirait un parfum de mafia derrière. Le problème, c'est que la malle a été ouverte. Et sur les collines, il y a les coyotes sauvages. Une bande de outlaws, de hors-la-loi, qui, il faut le dire, sont à la fois vieillissants, en manque total de reconnaissance par la justice, et même qualifiés par la presse locale d'hurluberlus qui anime un peu l'amorosité régionale. Oscar, leur chef, espère bien faire un grand coup avant de raccrocher les coltes. Ils ont décidé d'attaquer le train. Et pour être sûr que le train s'arrête, il a une idée géniale. On imagine déjà quel genre de catastrophe va réunir ces personnages. Eh ben non, on n'est pas encore au bout de ces surprises. C'est un album qui est assez vif, Le trait est très texturé, jeté, dynamique. Les regards sont grands ouverts et la version luxe de l'album en noir et blanc donne un cachet très film d'époque avec ce rebondissement soutenu. On hésite. Est-on dans le Far West ou dans le Metropolis des années 1920 ? C'est tout le charme de cette bande dessinée, le mélange d'imaginaire qui sert d'action, mais aussi le comique de situation. Chemin de fer, c'est une histoire complète donc de Cyril Pomès dans la collection Atmosphère chez Emmanuel Proust éditeur.
On enchaîne à présent avec The Baser, tome 2. C'est le manga à la française dessiné par Raph. C'est édité chez Ankama.
Qu'on a eu en interview en octobre dernier.
Tout à fait. En octobre, non, c'était...
En novembre, pardon.
Oui, nous l'avons diffusé en novembre, enregistré donc voilà. À la Japan en juin. Et donc, après avoir été viré du lycée, Anna et Joshua connaissent un destin différent. Anna est enrôlée de force dans l'émission People School, parrainée par la firme Mundial et présentée par la très poumonée Félation Carabiné. De son côté, Joshua atterrit directement dans la prison des raconteurs. Alors, les raconteurs... C'est expliqué dans le Thomas, ce sont les musiciens qui arrivent à produire de l'énergie à partir de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils jouent. Un peu comme les, si vous connaissez un peu les jamais les hologrammes, c'était un peu pareil, c'était des lasers qui sortaient des guitares. C'est un pouvoir qui a été développé par, dans une société complètement aseptisée par des gens qui ont quelque chose à dire. Donc ils ont un pouvoir qui se matérialise. Alors il est dans la prison pour raconteurs justement, où les gardiens s'amusent à monter les prisonniers les uns contre les autres. Et alors normalement, il devait être sauvé par son frère Nathan, mais celui-ci est trop occupé à monter un casting féminin à prétexte à partouze pour son groupe de musique. Bon, c'est pas gagné.
C'est, en général, c'est pour ça qu'on prend des chanteuses. Hein.
Voilà, exactement.
Alors, ils ont pas besoin d'être guitaristes.
Alors cet album, il est encore plus punchy que le précédent, puisque le premier, il mettait un peu les bases. Bon, qu'est-ce que sont les raconteurs, qui est Joshua, qui est Anna, tout ça. Donc ils se sont rencontrés à l'école, hein, alors que Joshua pensait que sa vocation c'était dessiner. Il passait des heures à faire un petit tag tout merdi. Recopiage de manga et elle en fait elle était passionnée de bouquins sauf que dans cette société dans le futur ça se passe en France puisque c'est à la suite de l'arrivée au pouvoir d'un président peu soucieux des libertés individuelles.
Tiens donc.
Voilà donc et bien justement l'éducation est refusée aux nanas qui sont tout juste bonnes à avoir des enfants et à se faire refaire les seins et faire des chirurgies esthétiques puisque les gros anniversaires, les gros cadeaux ce sont justement des, on leur offre des implantations sur ma mère. Voilà.
Avec ça, t'es bien armé pour la vie.
Voilà.
Désolé.
Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut dire, c'est que le visuel vraiment part dans tous les sens. C'est une énergie folle. C'est le trait super expressif. Y a pas une. Je pense qu'il y a très peu de cases où les personnages sont dessinés normalement, c'est-à-dire sérieux, en plan horizontaux et tout. C'est toujours des plongées, contre-plongées, les gens qui sont complètement énervés, un peu à la berserker, avec des têtes complètement déformées. Alors voilà, c'est. Il y a de l'énergie qui part dans tous les sens et à plusieurs styles il y a du ils sont déformés, ils sont en tout petit, après c'est en dessin naïf, après ça repasse au dessin normal, enfin normal, le trait de Raph est pas très normal à la base donc c'est très expressif. Donc ça part dans tous les sens et on est frappé par l'énergie qui se dégage du truc, un peu à l'image justement des raconteurs qui sont dans l'histoire. Et par exemple, attends, tiens, JB, je vais te reprendre l'album. À un moment donné, donc il est aussi beaucoup plus engagé politiquement que le premier. À un moment donné, elle fait la rétrospective de comment fonctionne une société. Alors c'est dessiné en des petites cases à bord arrondi, un peu naïf. Quand un dirigeant veut profiter de son pouvoir pour ses intérêts personnels sans que ses subordonnés ne s'en rendent compte, il lui suffit de créer un climat d'insécurité et de pointer du doigt à certains membres de la communauté les monter les uns contre les autres. Aveuglés par leurs multiples problèmes quotidiens, les gens ne lèvent pas le nez et ne voient pas les vrais responsables. Donc voilà, c'est une petite leçon par un personnage pour expliquer le fonctionnement de la prison, mais ce fonctionnement s'applique aussi à la société décrite dans le futur. Alors, ce qu'on pouvait reprocher au tome 1, c'est que certes, ça enfonçait un peu des portes ouvertes, c'est les artistes c'est des gentils, le pouvoir c'est des méchants. Là, on voit qu'elle tempère son propos, puisque à la People School, ce ne sont pas juste des gens qui sont obsédés par le fric pour foutre des chanteurs jetables. On voit que Anna rencontre une chanteuse qui lui veut du bien et qui lui permet de s'échapper, donc justement, c'est un peu plus tempéré. Et Par la suite, Anna va se retrouver dans une communauté de gens extrêmement cultivés, des artistes, des gens qui s'intéressent aux livres et tout, et elle va tomber d'une extrême à l'autre. C'est-à-dire que sans eux, ça va être plutôt des gens qui sont complètement intolérants vis-à-vis des gens qui sont juste du bétail à consommer du La People School, et sont des gens
nous, on est sortis des beaux-arts, on est éduqués.
C'est ça. Alors le mec, il a des lunettes à la Beck BD avec des grosses branches noires. Le mec, il dit ouais, de toute façon, regarde People School pour se foutre de la gueule des gens. C'est vraiment des cérébrés, des connards. Ceux qui regardent ces émissions. Et alors la Anna, la personnage principale, elle dit ouais, mais bon, vous comprenez, bon, c'est bien d'être dans un groupe avec qui on partage des mêmes références, mais finalement je me sens pas à mon aise non plus chez vous, en fait. Et donc c'est un bouquin qui glorifie justement la liberté de penser, l'individualité dans le raisonnement, etc., et le libre arbitre
plutôt que le suivisme de groupe.
Voilà, exactement. Que ce soit d'un extrême à l'autre, justement. Donc on rigole, hein, franchement, ils ont des têtes d'abrutis comme peuvent le montrer certaines séries animées japonaises, hein, avec des gens des personnages qui s'énervent, ou que à un moment donné l'action est tout à fait sérieuse, et puis d'un coup c'est la parenthèse comédie avec un mec qui se fait marcher sur le pied et lui dit ah, comment ça va pas. Alors là voilà, c'est des têtes comme ça que vous en trouvez une galerie absolument pas possible dans la BD. Donc The Baser tome 2 à tout point va beaucoup plus loin que le tome 1 au niveau engagement politique, au niveau humour, au niveau énergie. Il faut savoir que, on a appris ça en dialoguant un peu avec les auteurs, donc il faut savoir que Florent Maudou, le dessinateur et auteur de Freak Squeal, avait fini son album beaucoup plus tôt, et Ankama a souhaité que les deux albums paraissent en même temps, puisque les deux premiers tomes étaient parus également en même temps, donc ça a poussé Raph à carburer comme une malade, et justement... c'est pas mal de voir ce qu'elle peut faire sous la pression, puisque on est frappé justement encore une fois par l'énergie et l'expression et l'expressivité de son trait. Donc le seule faute de goût, c'est ce panneau, hein, on en discutait en off avec Xavier, hein, le manga qui redonne le pouvoir au rock, signé Max, animateur radio du Move. Voilà.
Radio le Mou, en pitié.
Voilà. Donc c'est édité chez Ankama.
Ils sont obligés de mettre des autocollants éphémères pour être cool.
Oui, on va le customiser, on va envoyer un mot à l'équipe d'Ankama. Donc c'est édité chez Ankama, The Baser tome 2, par scénarisé et dessiné par Raph. Voilà. Donc lisez quand même le tome 1 avant, parce que c'est une histoire qui se suit. Je ne sais plus combien de tomes sont prévus.
Et il est midi 42. Avec un peu de chance, on va essayer de faire démarrer du sport avant 13h. Ça veut dire qu'on va passer directement à la partie suivante.
Merde.
Rubrique cinéma vous est présentée en Dolby Mono sur une par Thomas.
JB, justement, oui. L'as-tu vu ce film avec Mickey Rourke qui s'appelle The Wrestler?
Non, j'ai pas eu la possibilité.
Donc je vais te spoiler le film.
Non, je veux pas.
Bon, je vais te donner envie de le voir.
Non, mais j'ai envie de le voir.
Bon, très bien. Alors, c'est un film de Darren Aronofsky.
Oh, tiens donc.
Avec donc, c'est surprenant.
Ah
avec,
oui.
Donc Mickey Rourke, Marisa Tomei et Evan Rachel Wood. Alors, on suit les aventures de Randy The Ram, le bélier. Randy Robinson, qui autrefois était superstar du catch. Dans les années 80, c'était vraiment la star du catch. Et maintenant, il se produit, 20 ans plus tard, seulement dans des petites salles, des salles de gym, de l'Amérique profonde.
Comme Mickey Rourke dans la vraie vie, quoi.
Exactement. Alors, en dehors du ring, où il est un véritable de vivant, aux yeux des fans, dans la vie normale, c'est pas drôle tous les jours. Ça alterne un peu entre il transporte des caisses dans un supermarché, il va passer la nuit à dormir dans sa bagnole parce qu'il a pas renouvelé les sous pour aller dans son mobilhome. Voilà. Il fait des footings un peu avec son anorak tout rapiécé. Il essaie de se démerder comme il peut. Pour être présentable sur le ring, il va payer lui-même ses séances d'UV. On le voit en train de chercher les produits pour booster son corps et tout. Bon, on le voit un peu dans la vie de tous les jours. Sentimentalement, c'est pas très top non plus, puisque sa seule amie, c'est une stripteaseuse. Sa fille, elle est en froid avec lui, elle veut plus lui parler. Bon, voilà, donc on voit vraiment le parallèle justement. Où
Loser, quoi.
C'est un minable, c'est un mec minable. Ouais, si tu te croises dans la rue, voilà, donc sur le ring, c'est un dieu vivant, dans la vie, bon, voilà, c'est pas dans tous les jours. Mais alors, à un moment donné, il arrive un truc, c'est que
Non, mais j'y baisse ma peine de boucher les oreilles, c'est écrit partout dans tous les pitchs. C'est
quand même... Il est temps pour lui que cela cesse.
Il fait une crise cardiaque et les médecins l'interdisent de catch. Qu'est-ce qui arrive ? Eh ben, il va essayer de recoller les morceaux et puis essayer de se pencher sur sa vraie vie. Mais c'est vrai que ce combat revanche par rapport au combat d'il y a 20 ans contre l'Ayatollah, il fait vachement envie. C'est le dernier baroud d'honneur qui pourrait éventuellement s'autoriser. Donc le dilemme. Alors voilà, c'est bon, JB.
JB, wouhou !
Darren Aronofsky. C'est bon. Alors on se disait, bon, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire de ce scénario ? Puisque bon, Darren Aronofsky, on va replacer le contexte. C'est le réalisateur qui était appartenant à la Beat Generation, hein, à la Cronenberg, Tsukamoto, même David Fincher pour Fight Club. Et alors c'est un mec qui avait fait Pi, le thriller cabalistique mathématique. Il avait fait Requiem for a Dream, le film sur la dépendance, bien énergique et tout. Il avait fait The Fountain, truc métaphysique avec plein d'effets de partout qui s'est déroulé sur 1000 ans, combat d'un mec contre le cancer de sa femme. Et là, c'est filmé caméra à l'épaule, c'est dans un style documentaire. C'est un film qui s'attache à un mec un peu loser, avec le parallèle avec Mickey Rourke et tout. Tu dis, tiens, bizarre, est-ce qu'il fait un film pour les Oscars ? Puis tu vois le film, et puis là tu vois que ce qu'il est intéressé dedans, c'est que déjà c'est le premier film qui s'intéresse autant au catch, et tout le milieu du catch, vraiment tu prends ta claque, puisque malgré le fait que ce soit du chiquet, ils prennent des coups sur le ring. Et puis comme c'est un mec qui s'intéresse vraiment justement à la notion du rapport au corps et tout, mais tu ouais, c'est des scènes assez gore, on va dire, en tout cas assez violentes.
Donc je devrais le voir tout seul, c'est ça?
Non, parce qu'on est allé avec des nanas qui l'ont bien apprécié aussi, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des séquences public féminin peut-être se cacher les yeux à un moment donné, mais ouais, bon ouais.
Voilà. Bah, je vais me le caler tout seul, je
crois. Voilà, donc il y a des multiples accessoires sur le ring qui font pas du bien, voilà, on va dire. Mmh. Donc on voit que c'est ça qui a intéressé aussi Aronofsky. Et puis bon, évidemment, tout le monde a souligné, c'est le parallèle avec la vie de Mickey Rourke, un acteur qui était au top dans les années 80, qui avait enchaîné 9 semaines et demie, l'année du dragon, Angel Heart, enfin les tueries comme ça, et puis qui se retrouve voilà, à mocher de partout, qui fait un retour fracassant avec ce film. Voilà, le parallèle est évident. On souligne aussi le casting féminin qui a à ses côtés, hein,
Marisa Tomei
et Evan Rachel Wood. Donc Marisa Tomei, je crois que c'est celle qui joue la stripteaseuse. Et il faut savoir aussi du sport, ça va t'intéresser, puisqu'il y a un rôle, enfin un acteur qui est de tous les films d'Aren Aronofsky, c'est le mec qui joue Antonio Nappa dans Oz. Alors j'ai oublié son nom, Michael Charkolis je crois qu'il s'appelle. Et donc il joue aussi un petit rôle également là-dedans. Le réalisateur, c'est encore
Steven
une fois
Steven Margolis me semble, ouais.
Certainement, tu as certainement raison. Et Aronofsky s'est encore attaché les services de Clint Mansell, c'est son compositeur attitré. Alors, le film, c'est à la fois la claque au niveau de l'histoire, puisque c'est, je l'ai dit, c'est filmé comme un documentaire, c'est la claque au niveau des combats, puisque ça va devenir le film référence pour le milieu du catch. Ça t'explique les rouages, comment se faire saigner, etc. C'est indescriptible. Ce serait un crime de vous l'expliquer ici. Il faut que vous le voyez. Mickey Rourke, quand c'est filmé, il y a pas mal de plans à la Elephant de Gus Van Sant, puisqu'on le voit en train de marcher. Là, tout l'intro du film, c'est juste un mec qui rentre chez lui, qui va bosser et tout. Et puis on le voit de dos surtout, avec toujours ce sempiternel Anora qui ne quitte pas, avec des scotchs de partout, rapiécés de partout, comme le gars qui est à l'intérieur. C'est un film qui est vraiment qui est marquant. En plus, il y a de beaux moments de comédie, de tendresse aussi, puisque quand il essaie de recoller avec sa famille. Donc c'est un film qui a été il y a eu une nomination aux Oscars pour le rôle de Mickey Rourke. C'est finalement Sean Penn qu'il a eu.
Tout à fait.
Il a eu le Golden Globe quand même du meilleur acteur.
Exactement.
Voilà. Donc voilà. Si comme moi vous étiez un peu sceptique en appréciant un peu les expérimentations d'Aronofsky sur ses précédents films, vous ne serez pas déçu par ce film. Malgré le statut de quasi documentaire, c'est vraiment une tuerie. Donc The Wrestler. Je ne sais pas s'il est encore à l'affiche, par contre, ça fait quelque temps qu'il est sorti. De Darren Aronofsky avec Mickey Rourke, Marisa Tomei et Evan Rachel Wood.
maintenant, nous allons retrouver du sport en direct de New Delhi.
Try to remember when life was so tender and happy.
Du sport par téléphone.
Et là, le téléphone, il marche bien. Voilà. Ça fonctionne à fond, les manettes.
Mumbai.
Ça s'est passé il y a 15 jours, hein, et c'était à Mumbai, ouais, plutôt, quoi. C'était pas à New Delhi. Attends, je peux vérifier vite.
Mumbai,
fait, quoi,
l'action quoi. De Slumdog Millionnaire.
Tout à fait.
Ouais. On va y revenir, hein, d'ailleurs, quoi. On va y revenir, de toute façon. En tout cas,
we will back.
C'était les 54e Filmfare Awards, l'équivalent en fait des Oscars aux États-Unis, mais là ça se passait en Inde.
Pour Bollywood.
Pour bien entendu le cinéma indien. On va essayer de laisser tomber un peu cette appellation, hein, qui est un petit peu réductrice, hein. C'est-à-dire que bon, bah, le cinéma ne se cantonne pas à Hollywood. Hollywood n'est pas forcément une référence pour le cinéma. Hein, on va partir de ce postulat. Et donc c'est le 54e. Ça veut dire que eux aussi, bah, ça fait longtemps qu'ils sont dans l'industrie du cinéma. Et c'est surtout pour vous dire que bien cette année, je vous en ai déjà parlé de ce film, hein, que qui avait été produit et tourné, réalisé l'an dernier. C'était la plus grosse production en termes de pépettes, hein. Il avait quand même engagé, ce qui est très rare, hein, dans le monde du cinéma indien, 15 millions de dollars pour faire ce film. Ça fait rigoler beaucoup de gens, surtout à Hollywood, parce que bon, 15 millions, je l'ai déjà dit, je le répète et tout, quoi. C'est même pas le cachet d'Angelina Jolie dans un film, hein. Bon, alors, avec ça, eux, ils vous foutent une superbe épopée, hein, qui pète du le feu. Et c'est ce film, donc, qui a finalement, remporté la majeure partie des awards indiens. C'est Jodha Akbar, donc, meilleur film, hein.
Déjà en DVD.
Ouais, enfin bon.
Bon, d'accord.
Ok. Jodha Akbar, qui a devancé d'autres films, qui gagne également, être connu comme Dostana. Gajini qui a l'air pas mal du tout, hein. Avec qui a un espèce de remake, mais à sauce indienne, elle est bonne, du film de Christopher Nolan, Memento, c'est-à-dire, hein, le film à rebours, quoi. Donc ça,
oui,
ça peut être très
bien,
intéressant. J'ai essayé de me le procurer, quoi. Comme ça, on verra, on jugera sur pièce. Il y avait également en compétition Rabne Bana Di Jodi, meilleur acteur. Eh bien, c'est l'acteur que tu as devant tes yeux, Thomas, et Hrithik Roshan, donc, hein, qui joue le rôle du prince moghol. L'histoire de Jodha Akbar est très simple, hein, c'est les Mongols au 15e, 16e siècle, je peux me tromper, bon, c'est pas trop grave, hein, enfin, pour l'intrigue, le prince moghol, les Mongols ont donc envahi une partie de l'Inde, et va s'installer, prend possession du royaume, mais pour se faire accepter du peuple, eh bien, il va devoir faire un mariage, et donc il va se marier avec une princesse qui elle est originaire donc du pays. Seulement, comment est-ce que ça va se passer, est-ce que ils vont s'entendre, différence, choc de culture, choc de religion également, donc il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Faut le voir, hein, de toute façon c'est une super production.
Une princesse interprétée par the actress Aishwarya Rai
Bachchan.
Oui, avec Bachchan, son vrai nom.
Oui, non, parce qu'elle est mariée maintenant. Hein. Bachchan, c'est le nom de Abhishek.
Elle est mariée. Mari.
Mais oui.
Mais qu'est-ce qu'elle a fait?
Mais je vous l'avais dit déjà.
C'est vrai. Mais tu suis pas, Thomas.
Je vous l'avais dit. Ah. Alors, Hrithik Roshan, donc, meilleur acteur. Bon, il le mérite, hein, parce que bon, on l'avait déjà vu dans d'autres grosses productions. C'est également lui qui est l'un des acteurs principaux dans Cachemire, qui est également présent dans Doom, dans Doom 2, et dans beaucoup d'autres.
Dans Doom?
Ouais, Doom avec un H après le D, c'est pareil. Ça n'a rien à voir avec la daube qui est tirée du
avec The Rock.
Jeu vidéo. Hein. Ouais. Non, rien à voir.
Quand il a dit Doom, ok, moi je pensais film avec The Rock. Puis quand il a dit Doom 2, je me suis dit, tiens, il y a du...
Ah ouais, non. Et la suite, en plus, est vraiment très très bien. Vraiment très très bien. Hein. Meilleur réalisateur, donc le réalisateur de Jodha Akbar, c'est Ashutosh Gowarikar. Celui-là, je me suis entraîné à la maison pour pouvoir le prononcer. Meilleur parolier, Javed Akhtar, de Jodha Akbar. Meilleure musique, A.R. Rahman, qui est un familier, hein, des musiques des films indiens, de toute façon, quoi, et qui a obtenu également deux Oscars pour Slumdog Millionaire. A.R. Rahman, qui fait également la musique, donc, de Slumdog Millionnaire. Meilleur scénario a échappé à Jodha Akbar, hein, c'est pour le cette espèce de film qui s'appelle Rock On, hein, avec la pochette, on voit des mecs avec des guitares et tout. Enfin bon, ça a l'air assez... Le meilleur actrice, c'est Priyanka Chopra, qui a donc devancé Aishwarya Rai Bachchan, Anushka Sharma et Azim Tatumkal. Azim Tatumkal qui a quand même obtenu le meilleur l'Oscar, enfin l'award du meilleur espoir féminin. Voilà.
Excuse-moi, je pense que tu ne l'as pas noté, mais juste par curiosité, est-ce qu'ils ont un award pour le film étranger?
Non, c'était pas noté, hein. J'ai vraiment pris le
voir du meilleur film hindouisant par les étrangers.
C'est intéressant de savoir qu'est-ce qui est sorti là-bas et qu'est-ce qu'ils jugent comme un film étranger.
Je crois que les films étrangers ont pas mal, beaucoup de mal à pénétrer le marché indien. Pour une simple et bonne raison, c'est que les salles de cinéma, c'est que les salles de cinéma sont détenues par des personnes physiques, hein, qui des millionnaires, des milliardaires, hein, qui achètent des réseaux de salles et qui donc diffusent les films qui correspondent à leur maison de production de films,
tout simplement. Eux-mêmes,
ouais. Hein, donc il y a une bataille à ce niveau-là et tout. Donc c'est très difficile, hein, pour les étrangers de venir interférer dans les programmations de films. Et vu la production indienne, de toute façon, c'est un petit peu difficile également, quoi. Alors encore une petite anecdote, hein, tirée du nouveau Bollywood Star qui vient de sortir. C'est le numéro 3. Et comme les deux premiers ont bien marché, eh bien ça y est, hein, le dépôt légal est enfin inscrit et le papier a changé. Le papier est légèrement glacé, un peu plus épais, tu vois, pas mal. Bon, c'est le même format, il y a le même nombre d'articles.
C'est un format magazine, hein, de toute façon.
Ouais, c'est voilà. Ça. Et entre autres anecdotes, il faut savoir que Anil Kapoor, quoi, qui joue le rôle du présentateur qui est vraiment un chien dans Slumdog Millionaire, lui, ben, il a fait don de son cachet, le cachet qu'il a gagné dans Slumdog Millionaire, il a fait don de son cachet pour
des écoles,
un hôpital d'enfants en Inde, à Mumbai, quoi. Donc,
oui, parce que comme tu l'expliquais, le cachet qu'il a perçu pour ce film doit être très supérieur à ce qu'il touche en Inde, peut-être, non?
Les grandes stars bollywoodiennes touchent une somme qui est équivalente aux grandes stars françaises.
Oui, mais comme il expliquait, pour le budget d'un film, ça doit être au ratio.
Non, quand même pas. Hein. C'est ce qui explique pourquoi ils arrivent à tourner plusieurs films, pas mal de films d'ailleurs, par année. Surtout quand il s'agit de très grosses vedettes. Alors, dans ce numéro de Bollywood Star, on a bien entendu un article sur Slumdog Millionaire, hein, parce qu'il faut dire que bon, si le réalisateur est anglais, le film a été tourné entièrement en Inde, donc avec les équipes techniques indiennes qui ont l'habitude justement des tournages indiens, hein, donc il y a également bien entendu encore l'article entre la fight de l'année 2008 entre Shah Rukh Khan et l'autre, alors les deux là ils peuvent pas sentir, et Amir Khan, donc vraiment ça continue, quoi, c'est magnifique, c'est génial. Bon, pourtant on se demande, quoi, il y a de la place pour pas mal de gens, mais bon, le seul truc, alors ça c'est Gajni, quoi, le film dont je vous parlais là, espèce de remake de Memento, quoi, donc déjà
ouais, il est tatoué et tout,
attends, c'est un peu chaud, quoi, justement, quoi. Et c'est lui Amir Khan. C'est lui Amir Khan, quoi.
Ah oui, d'accord.
Voilà, tu vois.
Non, chaud. Le cinéma là-bas est plutôt très prude. Hein.
Il y a également un bon article sur les figurants des tournages de Bollywood. Vous savez que bon, si vous allez en Inde et tout, si vous êtes au bon endroit, vous pouvez vous faire rabattre par
spoté.
Même quand vous êtes spoté par des types qui sont là, qui font que ça toute la journée dans la rue, hein, qui essaient de choper des gens pour venir faire de la figuration sur un tournage dans un film. Vous vous faites payer. Alors bon, on a vu un reportage, hein, sur ceci qui était passé dans l'émission de reportage de France 2 là, qui est vachement connue là,
Envoyé spécial.
Voilà, où c'était un peu galère quand même, quoi, où ils avaient chopé des Européens qui étaient là, parce que bon, de temps en temps, quoi, comme l'action ne se situe pas uniquement en Inde mais peut se situer également dans d'autres pays partout dans le monde, donc il faut des figurants qui correspondent un petit peu, quoi, au look local, et c'était un peu aux galères quand même. Les mecs avaient du mal à se faire payer, on patientait pendant des heures. Au départ, on vous promet de vous payer, de vous nourrir, tout ça, c'est bon, ok. Il y a également la revue des derniers films sortis, Et il y a, bien entendu, toute façon, comme d'habitude, le karaoké qui est ce mois-ci donc tiré du film d'Ostana, ce qui s'appelle My Daisy Girl.
Oui, c'est ça. Tu veux dire que tu veux dire que pour la 200e, on va s'en taper un, c'est ça?
Ah, mais il va falloir choper la musique, hein, surtout. Quoi.
Bon, on en est où, là?
Hein, en fait, 191e, là.
Il y a aussi un article hein, qui explique pourquoi c'est très difficile de voir des Bollywood, des films indiens en France qui ne sont jamais diffusés en salle. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, hein, parce que bon, y en a qui mériteraient, vu la production et vu ce qu'on peut se taper des fois en salle, qui mériteraient
parce que c'est
largement.
C'est des personnes physiques qui ont acheté plein de cinémas et puis qui balancent leurs films à l'intérieur.
Non, c'est pas uniquement ça.
Dans les Gaumont,
non, c'est pas uniquement ça. Les torts sont partagés. Hein. Il faut savoir que les gros réseaux de salles en Europe, en France en particulier, sont très frileux, ne connaissent pas trop, donc hésitent à engager leurs pépettes sur. Sur des projections de films indiens, mais d'un autre côté, les Indiens, c'est-à-dire les producteurs de films indiens, exigent quand même des sommes assez importantes pour les droits de diffusion, pour les droits de projection des films à l'étranger.
Mais on arrive quand même d'un autre côté, la crème de la crème du cinéma, genre Lagan et compagnie qui passe à l'Utopia ou
c'est-à-dire qu'on va avoir des diffusions épisodiques, soit à l'occasion de festivals, soit dans des cinémas d'art et essai, comme on dit. C'est pas le grand public qui va pouvoir vraiment avoir accès. C'est vraiment les gens qui vont essayer de chercher quelque chose, qui vont essayer de découvrir quelque chose d'autre. Hein. Mais c'est pas comme par exemple, une campagne de presse monstrueuse de plusieurs millions de dollars pour les Watchmen, pour The Wrestler ou des choses comme ça. C'est vraiment des films qui vont passer en catimini comme ça. Quoi. Tiens, j'ai le programme de l'Utopia. Ah tiens, un film indien, je me le ferai bien, pas mal. Ok, on y va. Quoi. Mais sinon, laissez tomber pour voir film indien.
En fait, faut savoir que les sommes qu'ils demandent, c'est les sommes de toute façon qu'ils exigent dans des pays comme les Philippines ou la Thaïlande et tout ça. Et où d'habitude ils rentrent dans leur frais, puisque ils occupent très bien le secteur.
Ils occupent le secteur, mais uniquement le secteur asiatique. Hein, c'est-à-dire que et encore une partie du secteur asiatique. Hein, donc là, il y a quand même un léger problème.
D'un autre côté, il y a Zee Cinéma, qui est un peu l'équivalent de Canal Plus Cinéma, qui est disponible en France sur des réseaux ADSL. Mais voilà, c'est 15 euros par mois. Donc pour vous abonner, bonne chance. Il est 13h02. on se fait un petit break musical peut-être ?
Tout à fait.
Ok, dans ce cas-là, moi je vous propose l'hymne national, s'il vous plaît.
Aînés n'y seront plus, nous y trouverons
Bon repos, pas la peine hein, de se mettre au garde à vous.
Les scénaristes se suivent et se ressemblent. Les héros s'en sortent toujours et on aime toujours ça. C'est la loi des séries.
Oui, tu sais pas. Quand il veut, d'accord, ok. Non, il se fait désirer.
Ce générique magnifique enregistré sur un orgue bon tant pis trafiqué, c'est, quel bonheur. Ah, ces sonorités oubliées.
Allez, je vais te faire plaisir, on l'a chaque semaine.
Oui, je sais.
Non, pas tout le temps.
Non, 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 mais c'est les sonorités là, tu vois. Ça, c'est...
D'accord, j'envoie sur autre chose.
Back to the 80s, quoi. Alors, quelques séries, il n'y a pas grand chose. La seule série inédite, ce sera sur Syfy à partir de mardi prochain, 20h45. Une série qui d'ailleurs devrait te remplir d'aise et de joie, car il s'agit d'une série qui a été achetée par une chaîne américaine après une diffusion sur le web. Au départ, c'était une série qui était faite uniquement pour le web. Et bon, les producteurs de je sais plus de quel grand national ont vu ça, ont dit que ça marchait pas mal et tout, que ça avait l'air intéressant, le sujet et
ils
tout.
Ils ont dit, bon, ça fait combien en audience? Ah ouais, quand même.
Et ils se sont dit, ah bon, écoutez, ça vous intéresserait de faire un petit peu de vraie télé, hein? D'accord, ok. Bon, surtout que bon, il y a quand même du beau monde, hein, et en particulier, dans le rôle principal, Amanda Tapping.
Ah ouais, c'est Samantha Carter.
Exactement.
Dans Stargate SG,
la série qui est quand même la série de science-fiction à avoir duré le plus longtemps. Hein, c'est le record hein, quand même. Quoi,
c'est le,
hein,
ouais.
Plus de 10 ans. Hein, ils ont battu
c'est
Star Trek.
C'est le record pour la télé américaine.
Ouais, mais bon, ils
après,
ont battu
y a
Star
Doctor
Trek. Ils ont battu Star Trek à l'aise, les doigts dans le nez.
Ils ont même battu MacGyver, c'est bête.
Ouais. Non, c'est pas tellement une série de science-fiction. Alors, outre Amanda Tapping qui joue donc le rôle d'Hélène Magnus, une prêtresse, exorciste, âgée de 157 ans.
Ah, ça doit la changer.
Qui, alors justement, quoi, pour qu'on puisse pas faire trop le rapprochement avec son rôle de Samantha Carter dans SG, eh bien, elle s'est teinte en brune. Alors bon, le résultat est pas tellement probant et. je me suis même laissé dire comme ça, mais enfin bon, c'est un avis féminin. Ouais, elle a fait de la chire. Enfin bref quoi. Amanda Tapping qui est également productrice sur ce film, donc sur cette série, hein, donc qui marche à fond dedans quoi. Et à ses côtés donc Robin Dunn, Christopher Heyerdahl, Emily Ullerup, donc pour cette série qui s'appelle Sanctuary et qui sera diffusée à partir de mardi prochain 20h45 sur Syfy, 3 épisodes donc diffusés. À la suite, ça c'est la seule série inédite que j'ai pu vous choper pour la semaine à venir. Par contre, au niveau série, il y a quand même quelques petites choses intéressantes. Je vous avais parlé la semaine dernière de Berlin Brigade Criminelle diffusée par Arte le vendredi soir. Alors, vraiment là, j'ai regardé ça hier soir. Et je veux pas dire que je suis tombé sur le cul, c'est pas un chef-d'œuvre absolu, mais les Allemands font quand même très très fort. Hein. Alors ça raconte donc la vie de tous les jours dans un commissariat à Kreuzberg à Berlin, c'est-à-dire un quartier vraiment très trash de Berlin, la dope circule, les gosses se baladent sans leurs parents et tout. Il y a une histoire avec un gamin de 10 ans et tout qui est envoyé par ses parents de Bosnie et tout quoi pour essayer de survivre comme ça quoi et renvoyer du pognon tout en faisant des petites magouilles on s'attache plus, les intrigues sont des fois, les enquêtes policières sont des fois on va dire un petit peu laissées de côté et c'est surtout la vie et la façon d'être des différents intervenants dans le commissariat, des différents inspecteurs et inspectrices de ce commissariat qui est le plus important, la façon dont ils réagissent vis-à-vis de la vie de tous les vis-à-vis des enquêtes qu'ils ont à résoudre, mais également vis-à-vis des rapports qu'ils peuvent avoir eux entre eux par rapport à leur vie quotidienne, par rapport à leur vie privée également. Alors déjà on a le commissaire principal interprété par Gert Schubert qui est très très fort hein. Dès le deuxième épisode et tout, sa fille meurt dans un accident de voiture parce qu'ils étaient un petit peu défoncés avec son petit copain, qu'ils avaient pris un petit peu d'ecstasy et tout, quoi. Et là, bon, lui, il pète les plombs, il va aller chercher le mec avec le gun, genre, bon, ben, ok, quoi, je vais me faire justice moi-même. On a bien entendu toute la France, l'immigration allemande, l'immigration en Allemagne est très bien représentée avec pas moins de 3, voire 4 personnages principaux qui sont des immigrés, hein, soit turcs ou alors hongrois, bon, bah, ou des pays, d'autres pays limitrophes, et dont le jeune garçon qui vient de Bosnie. Le tournage, les images, ça m'a fait penser un petit peu la façon dont c'est tourné, une espèce de grain un petit peu imparfait comme ça, une lumière un petit peu blafarde, on va dire, hein, et puis bon, faut voir les décors, c'est vraiment trash, quoi, mais vraiment, c'est le commissariat pourri de merde, quoi.
Ça fait penser à Derrick, quoi.
Non, Derrick, c'est clean, c'est non, nickel, mais... les couleurs sont peut-être un petit peu rigolo.
Quand Mathias va chercher la voiture, l'aspirateur est passé à l'intérieur et il n'y a pas une chair de pigeon.
Ah non, non, là, c'est vraiment trash, il y a carrément des tags à l'intérieur du commissariat, dans l'escalier, le crépi des murs tombe en ruine, enfin bon, c'est vraiment le truc.
C'est un peu comme Police District qu'on a vu.
C'est pire, hein. Disons que c'est encore plus trash, quoi. Disons, bon, là, vraiment, quoi. Alors bon, bah, il y a plein d'anecdotes qui sont pas très ragoûtantes, quoi, on va dire. Alors bon, il y a l'inspecteur turc et tout, quoi, qui doit se marier, c'est plus ou moins un mariage forcé, il connaît pas sa femme avant le jour du mariage et tout, et puis bon,
c'est un mariage arrangé, quoi.
Oui, c'est un mariage arrangé, mais il découvre le visage de sa femme au moment où l'imam prononce les vœux, quoi, c'est-à-dire ok, vous êtes marié, femme et tout, et là il peut soulever le voile et voir le visage de sa femme et tout, quoi, qui s'avère d'ailleurs très 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 mignonne et tout, mais qui, elle, vient de Turquie, donc qui n'a aucune qui sait pas comment ça marche dans un pays européen et tout, qui bon connaît quand même un petit peu les us et coutumes, mais sans plus.
Hein.
L'autre inspecteur qui elle est à la colle avec une autre nana et tout, quoi, mais qui ose pas faire son coming out par rapport aux autres membres de, par rapport à ses collègues, lors du mariage justement, quoi. Il y a plein de petites choses comme ça et tout, quoi, mais bon, c'est bien rentre dedans, c'est on se laisse vraiment prendre et tout, et puis bon, il y a toujours un espèce de
il y a beaucoup de polars finalement le vendredi soir.
Ah non, mais là vraiment ils ont fait très fort, quoi, et bon, bah, là c'est une excellente surprise, hein, vraiment une excellente surprise, ils sont tous très très bons, dont Manfred Zapatka qui joue le rôle du vieux flic, qui est le pote, qui est également un petit peu dont la fille de l'inspecteur du commissaire principal est c'est sa filleule, enfin bon, il y a un petit lien de parenté et tout, mais qui n'est pas tout à fait net, on va dire, hein. Il y a une petite histoire comme ça, bon, bah, il a on va dire pris le fric du dealer, quoi, alors qu'il aurait dû le foutre le rendre au commissariat, il l'a gardé pour lui, enfin bon, des petites choses comme ça, disons, c'est pas tout noir tout blanc.
Ah oui, d'accord.
Mais la façon dont c'est tourné, c'est très vif, hein, c'est très 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 rapide, il y a pas de temps mort et tout, les épisodes sont assez brefs, je crois que c'est des 45 minutes me semble-t-il, et mais on rentre dedans et puis bon, on y reste jusqu'à la fin, quoi, il y a pas de temps mort, quoi, c'est excellent. Et puis bon, chaque fin d'épisode, bah, on est là, on se dit merde, c'est terminé, il va falloir attendre le prochain et tout. Hein, c'est très bien foutu, quoi. Moi, j'ai adoré, vraiment, vraiment, j'ai adoré. Berlin Brigade Criminelle, dont le titre original c'est KDD. Alors ça fait rigoler certains hip-hoppers du côté de Toulouse, c'est clair. Un criminel.
C'est ceux qui attendaient Nadège sur le toit du Carrefour La Beige.
Ouais. Non, en fait, c'est criminel Dawen Dienst, quoi. Enfin, un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire brigade criminelle, quoi. Donc en allemand. Alors c'est diffusé sur Arte le vendredi, mais par le plus grand des hasards, non, pas tellement. Vendredi prochain, il va falloir attendre le retour d'Isabelle Adjani à la télé, après le retour d'Isabelle Adjani à la télé sur Arte, pour voir un seul épisode donc de Berlin Brigade Criminelle Unterdruck à partir de 22h10. Mais allez-y, franco, il n'y a pas de problème, c'est vraiment très très bien. C'est moi, vraiment, c'est la série de la semaine sans aucun conteste. Sinon, on a également en série une petite curiosité pour les gens que ça amuse de voir des crossovers très très bien réussis. C'est par exemple cet épisode de Diagnostic Meurtre, cette série avec Dick Van Dyke et son fils Barry Van Dyke,
Dick Van Dyke qui joue le rôle d'un médecin, du chef de clinique, et son fils qui est enquêteur dans la police et tout, qui résolve bien entendu les enquêtes. Mais cet épisode de la saison 2 qui s'appelle Tournage meurtrier, diffusé par Série Club ce soir à 20h45, est un peu spécial parce qu'il y a un crossover avec Les Feux de l'amour, dans laquelle d'un épisode dans lequel on voit les acteurs des Feux de l'amour, hein, c'est-à-dire il y a un meurtre sur le plateau de tournage et tout, donc cherche à savoir.
C'est ballot.
Ah ouais, et donc ils vont côtoyer Victor Newman, toute la bande les acteurs donc des Feux de l'amour. C'est pas mal, c'est rigolo quoi, ça se laisse voir aisément. Au chapitre des reprises, si vous l'avez loupé, j'en avais parlé abondamment quand c'était passé sur France 2, mais ça passait à un horaire, on va dire, indélicat. C'était dans la tranche horaire de France 2 le dimanche soir à partir de 23h15. C'est The Kill Point, ou l'histoire d'une prise d'otage, avec Donnie Wahlberg dans le rôle du flic, médiateur, on va dire, négociateur, voilà, du négociateur. John Leguizamo dans celui du rôle de chef de la bande qui braque la banque et qui se retrouve coincé dedans quoi, avec plein d'otages. Ça se passe à Pittsburgh. Il y a également Bruce Davison et toute une série de second couteau de second rôle qu'on connaît pas trop, mais qui sont très très efficaces. Ça se regarde du début jusqu'à la fin. Ne loupez pas le début parce que ça conditionne vraiment toute l'histoire, hein. C'est vraiment une série où on peut pas se permettre de louper un épisode, sinon on est un petit peu perdu quoi. Et c'est rediffusé sur France 4 demain soir à partir de 20h35, 3 épisodes. Donc là, l'horaire est un petit peu plus adéquat. Attention, des fois ça charcle un petit peu dur, c'est quand même du moins 10. Parce que bon, des fois c'est un petit peu rentre dedans, quoi. Il faut dire ce qui est. Il y a donc ce dont je t'avais parlé, quoi, qui va faire concurrence avec putain 20 ans déjà. C'est Ligne de Feu sur TF1 à partir de 20h45, qui est appelé. C'est un téléfilm. Tu vas raconter la vie des pompiers.
Est-ce que tu es au courant des chiffres d'audience de cette semaine de TF1?
Ah bah c'est lamentable.
Les seules fois où ils sont en dessous de 30%, c'est quand ils passent une fiction maison. Et c'est comme ça depuis un mois.
Ah ouais, non mais ils se sont fait bouler.
C'est les seules fois où ils sont en dessous de 30%, c'est quand ils passent Femme de loi ou la fiction du lundi.
Lundi dernier, ils se sont fait bouler.
Ouais, ils étaient à 24, ils ont été dépassés par France 2.
Et ils se sont fait bouler, et quand même, c'était Joséphine, quoi, ange gardien, quoi. Et ils se sont fait bouler par Anthony Lapaglia, FBI porté disparu, quoi. Donc,
ça fait mal.
C'est quelque chose. Là, ça peut peut-être se regarder quand même, hein. C'est une nouvelle série inédite de téléfilm qui a pour propos bien la vie des pompiers ici chez nous en France, avec Alexis Loret, Mathieu Delarive, Catherine Deneuf, David Saracino, Lionel Astier, et c'est tourné par, ça a été réalisé par Michel Angelo. Ligne de Feu, c'est sur TF1 lundi 20h45, mais là vous êtes un peu pervers quand même,
ou fan de Lionel
ou
Astier.
Alors vous n'avez que TF1.
Voilà.
On termine avec série de films.
Je te rassure, moi après j'ai les séances dédicaces, il y en a un paquet, donc il faut que je.
Ah bah c'est cool alors.
Non, parce qu'il se dit mince, j'ai pas assez de sportifs.
Si, non, t'en fais pas, tranquille. Bon, oh là là, ouais, c'est bon quoi. Là, on termine avec une série de films, et là, j'ai pas cherché les films de genre, si quand même, parce que on va faire la semaine sur Cinépolar. Ah, t'as pas de générique là?
Générique de Polar? Non.
Bon, ben,
je
okay.
suis catastrophé parce que voilà, le truc d'intro a été loupé.
C'est pas grave. Alors, ça commence.
Lis-le jusqu'au bout. Vas-y.
Alors, ça commence ce soir, 21h, L'homme qui refusait de mourir, un film de Bill Condon de 99. Bill Condon, c'est le mec. C'est le mec qui nous avait fait un film pas mal avec Brendan Fraser sur
Georges de la Jungle.
Non, pas sur le réalisateur de King Kong l'original.
Oui.
Je sais pas si ça te.
Bah, les réalisateurs.
Ouais, les réalisateurs. Enfin, l'un des deux quoi.
Y a Tochak et l'autre c'est j'ai plus. Parce ouais, que ouais. C'est non compliqué en plus alors.
Voilà, ouais. Donc Bill Condon, là il s'agit d'un polar avec Roger Moore, Malcolm McDowell et Nancy Allen, qui est suivi par un épisode de L'As de la Crime, 22h55, un épisode de la saison 3. L'As de la Crime, on peut retrouver Michael Chiklis avec des cheveux, mais il en perd déjà un peu.
Ah,
mais il en perd déjà un peu.
Dégarni donc.
Ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant de le voir comme ça et tout, quoi, tu sais, avec un peu dégarni en haut et puis les cheveux longs un peu derrière, comme ça, quoi. Tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime. Dimanche, demain, à 21h, un grand classique, un des meilleurs d'Abel Ferrara, King of New York, avec Christopher Walken, Larry Fishburne, David Caruso, maigre, mais comme c'est pas permis, qui a pas encore senti de la tête de côté et qui là, comme la majeure partie de l'action se passe la nuit, il peut pas mettre de lunettes de soleil. Eh ouais, c'est con pour lui. Suivi à 22h40 de La Main du Pouvoir, un film anglais de Ken Hughes de 74 avec James Coburn, Lee Grant, Christian Kruger et Ian Hendry. Lundi à 21h, un bon Hitchcock qui est paraît-il son préféré, c'est lui qui le dit, L'ombre d'un doute, un Hitchcock de 43 avec Joseph Cotten, Teresa Wright et Hume Cronin. Suivi de, à 22h45, de Lié par le sang de Terence Young en 79 avec Audrey Hepburn, Ben Gazzara, James Mason, Maurice Ronet et Romy Schneider. Bon, je l'ai vu il y a très 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 longtemps, j'en ai pas gardé un souvenir impérissable, je vous le dis franchement, hein. Mais bon, il y a Maurice Ronet dedans, il y a James Mason et il y a Ben Gazzara. Donc déjà, ça peut suffire. Mardi, à 21h, la valse du gorille, anglais, alors que c'est un film français de Bernard Bordery, de 59.
Angélique.
Qui a fait Angélique après, hein, et qui est la suite, en fait, du Gorille vous salue bien. Dans lequel c'était Lino Ventura qui interprétait le rôle du gorille, hein, le personnage d'Albert Simonin. Et là, bien, c'est Roger Hanin qui reprend le rôle.
Ah.
Avec à ses côtés Charles Vanel, Yves Barsac et Suzanne Dehely. Suivi à 22h45 de Sexe Intention de Campbell en 99.
Roger Campbell.
Roger Campbell avec Sarah
JB Fessing, qu'il est très bien.
Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Reese Witherspoon.
Mais en plus, ils ont passé le 2 et le 3 a été passé cette semaine.
Ouais, ouais. Ouais, non, mais bon.
TNT.
Ouais, bah c'est le premier et le moins pourri, quoi, de toute façon, quoi.
Et encore, parce que c'est une adaptation très, très adolescente de
Shakespeare.
Hein.
Des liaisons
de Shakespeare, de Laclos.
Oui, de Laclos.
Chauderlot, de Laclos.
Hop, je me retais.
Mercredi 21h, Suspicion de David Bailey avec Charlotte Gainsbourg, Natasha Kinski et Charles Powell, film canado-anglais. Suivi de du bon 13 Tsameti à 22h35 de Gela Babluani avec George Babluani, Aurélien Recoin et Pascal Passon, entre autres. Jeudi, on a un film, un polar italien, un des très bons polars italiens de la des années 70, avec qui ne remporte pas le titre du film le plus long, du titre le plus long, mais qui en est pas loin, qui s'appelle Confession d'un commissaire de police au procureur de la République, de Damiano Damiani en 71 avec Franco Nero, Martin Balsam, Marilo Toulou et Claudio Gora, un flic qui en a marre de voir les gangsters, les assassins être laissés libres ou être relachés parce que il y a faute de preuves ou parce qu'il y a vice de procédure et tout ça, et qui donc va recourir à des méthodes un petit peu illégales, on va dire, hein, pour que justice soit faite. Et en plus, c'est Franco Nero, donc ça le fait très très bien. Suivi à 22h40 de la rediff de King of New York, on s'en lasse pas. Vendredi, pour terminer, encore un Hitchcock à 21h, mais qui a tué Harry? Un Hitchcock de 55 avec Edmund Goen, John Forsythe,
oui,
qui a joué dans, c'est le patriarche dans Dynasty, bien entendu.
Oh, merde.
Et ouais, et Shirley MacLaine. Ah, là, il joue le rôle du jeune premier. Attention, quoi. Et à 22h45, jusqu'au dernier, un film français de Pierre Billon de 1956 avec Raymond Pellegrin, Jeanne Moreau, Paul Meurice et Mouloudji.
Tiens, tant qu'on est à la télé, as-tu suivi le dernier épisode de la saison 1 de Sarah Connor et qu'en as-tu pensé si tu l'as suivi?
Non, j'ai pas vu.
Parce que moi, j'ai trouvé vachement mou, en fait.
C'est et plat. Moi, j'ai vu le début, l'épisode 1 de la saison 2 et...
Déjà?
Ouais, il va avec. Quoi.
Et alors?
Justement, attention, il le fait dans la continuité.
Il le fait parce que la saison 1, le peu que j'ai vu, effectivement, le premier épisode, c'est plat.
Le premier épisode, c'est plat, après ça décolle.
Ouais,
c'est vrai que à chaque fois, c'est vrai qu'on s'attend à un cliffhanger à la fin de l'épisode 9 qui clôt la première saison de 9 épisodes. Et c'est vrai que le cliffhanger est très très mou.
Faut savoir quand même qu'au départ, ils étaient même pas sûrs quand ils ont terminé, quand ils ont fait le tournage, que la série allait continuer. La Fox était encore en stupin douce. Sachant que. Il y a une polémique sur la programmation de Fox actuellement. Oui. Ils ont foutu toutes ces séries comme.
Ils l'ont mis le vendredi soir et ils sont.
C'est le vendredi soir, c'est le créneau qui se casse la gueule en ce moment. Après
le problème, c'est que le public visé le vendredi soir ne regarde pas la télé. Et donc, ils sont en train de se poser la question si la majorité des séries qui passent le vendredi soir vont pas passer
la trappe.
Exactement, Sarah Chronicle.
Ils ont déjà massacré une série de Joss Whedon, Serenity, de ce côté-là. Donc, on va voir ce que ça va donner.
À noter l'apparition de l'acteur qui joue David Silver dans Beverly Hills, qui est Brian Austin Green, qui est absolument excellent.
Brian Austin Green, qui est quand même l'un des piliers de Beverly Hills au départ.
Oui.
C'est ce David que tu viens Silver. De dire.
David Silver.
Oui. Et qu'on voit également dans d'autres séries.
Vous parlez pas de David Silver ?
Je crois. Ouais.
Ah si. Alors dans ce cas-là, je vais les laisser continuer, voilà. Et moi, je vais entamer donc l'agenda de dédicaces. Derrière, avec tout à l'heure, à partir de 15h, à la librairie Terre de Légende, et ben Mayonara qui sera en dédicace pour sa série sur les vampires qui s'appelle D. Demain. À la Ramonville, Saint-Agne, donc au parc technologique du Canal, la bourse d'échange de bandes dessinées d'occasion, c'est à la salle des fêtes de 10h à 18h. Samedi prochain, à la librairie album Stéphanie Mercier pour Tous les jours, La Grande Chose, qui est une adaptation de son blog. Si vous voulez le lien de son blog, je vais pas vous donner l'adresse, vous allez sur supplementweekend.fr, vous allez dans les chroniques du jour, c'est le dernier lien qu'on a rentré. Samedi 21, Gilbert Joseph, Thierry Plus pour son premier album Dog et moi qui vient de sortir chez Gallimard et qui sera en dédicace dans 15 jours dans le supplément week-end.
Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris de l'émission au cours de route ?
Tout à fait. Alors, nous avons une interview par téléphone de Daniel Herzog des Guignols, avant que tu arrives, de la bande dessinée avec des trains et de la télé-réalité musicale. On a eu du Catcheur abîmé, du cinéma indien, de la Samantha Carter retouchée. On a eu de la Polizza à la télé, du polar. On a eu JB mouché sur Shakespeare et on a réussi à caser, mine de rien, d'Eric, Les Feux de l'amour, Dynasty et Beverly Hills.
Yes. Combo lettre mon compte triple. Ouais.
Par le théâtre de Guignols, ils ont manqué tout ça. Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer des quiz stupides, laisser vos commentaires, poser vos questions. Vous savez, n'hésitez pas. Il suffit d'aller, comme d'habitude, sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FMR sur 49.1 MHz. Nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et en continu sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, Himmler se trimoussera en pantalon moule frites burné avec slip.
C'est pas ce qui est marqué dans son script.
Oui, apparemment oui. Parce qu'il croit que je vais relire exactement bêtement le speech qu'il a marqué.
C'est gentil la suite.
Et je suis désolé, je te fais ça en plein live parce que je l'avais noté, je l'avais corrigé et vous m'avez piqué la feuille, donc je fais ça
donc
à la volée.
On le mettra à la suite, sachant que pour la première part, pour ce qui était prévu à l'origine, c'est ce que l'on a annoncé la semaine dernière.
Mais je n'étais pas là.
Mais tu n'étais pas là et c'était le gag et qui était en début d'émission.
D'accord.
Ceci dit, on aura Daniel Maguin en interview la semaine prochaine, qui est donc un galeriste spécialisé dans les planches originales de bande dessinée, qui s'est mis à l'édition d'albums de bande dessinée, qui vient d'éditer Canoë B, scénarisé par Tibur Sogé, et dont il a souhaité faire un reversement à ICF. Ça, on en parlera la semaine prochaine, puisque Thomas n'est pas là. Voilà, et il y aura tout plein de BD en contrepartie, en chronique.
Ok, je fais une chronique ciné.
Si tu
youpi
veux. Tu annonces la suite, hein, s'il te plaît.
Oui, donc on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.
Ciao, bye bye, et promis juré, on ne piquera plus la feuille de JB à la volée pendant qu'elle est en train de rédiger.
Il a qu'à réécouter l'émission. Donc,
voilà. Allez, ciao, bye bye,
on vous laisse.
Salut.
Ah bah, on vous laisse avec du sport. Ce soir, Joseph Arthur en concert et le concert de Peter Van Pott qui était programmé au Bikini pour demain et reporté le 14 mai. Ciao, plus. We'll be right back.
Claque la gueule aux années mortes, aux années de guerre qui emportent la chaleur des cœurs loin sous la terre où le bonheur meurt sans se défaire. Claque la gueule aux menteurs de tous bords, aux salauds qui se moquent de ceux qui ont tort de croire en un monde meilleur où les narcisses ne sont que des fleurs. Casse la gueule aux dealers de peur qui comptent sur les bombes pour faire leur beurre sur le dos des cocus qui n'aspirent plus qu'à un peu de confort, de viande et de cul. Casse la gueule aux années molles où chacun craint pour sa petite obole et va se terrer au fond de son trou où pourriront de dégoût les ragots, les ragoûts.
Radio FMR 89.1 MHz, il est pile, il est passé d'une minute 13h30, donc sur les 89.1 MHz, un petit peu de sport, et là j'ai pratiquement plus d'une demi-heure et tout, on commence par une petite nouvelle brève que je pourrais titrer « Les cons de la semaine ». Deux supporters du TFC impliqués dans des incidents avec des supporters adverses samedi à Toulouse, samedi dernier donc, avant le match de Bordeaux, on a pu voir des photos et tout quoi. Alors c'est marrant hein, parce que bon, ils sont vraiment cons ces mecs là. Déjà ils se font gauler par les flics au milieu d'une foule, parce que la baston, il y avait quand même je sais pas 200-300 personnes tranquilles hein, 100 à 200 de chaque côté. Alors déjà ils se font gauler par les keufs et tout. Au départ ils sont très cons parce que bon, ils sont dans cette espèce de mouvance semi-hooliganesque qui tendrait à vouloir systématiquement taper sur les supporters des autres clubs comme ça. On se file rendez-vous sur les aires d'autoroute, on se file rendez-vous là, et puis ensuite grosse baston, ça défoule et tout. Si c'est ça soutenir un club de foot, bon non, pas trop d'accord, tu vois, parce que bon, il y a quand même d'autres occupations quoi, et même si on se bourre la gueule quoi, c'est pas la peine de se taper sur la gueule, c'est vraiment ridicule. Donc ils ont été condamnés à des peines de prison quand même hein, poursuivis pour violence aggravée sur des policiers municipaux, jugés lundi en comparution immédiate au tribunal correctionnel. L'un d'eux est déjà récidiviste, âgé de 32 ans, il a écopé de 6 mois dont 3 mois ferme, donc écroué à la maison d'arrêt de Seyss, et le second 21 ans à 6 mois de prison avec sursis, reconnu coupable de jet de bouteille contre des policiers qui s'étaient interposés. Bande de cons, pas les flics pour une fois, tu vois.
Ça y est, nous quittons la triste banlieue et nous arrivons déjà chez
chez mes vieux. Mon sang citadin soudain se détend et je peux enfin pour un court instant pisser dans l'herbe. Mes yeux remercient le ciel, les nuages, la douce prairie et la fleur sauvage. Quitter le mur blanc trop près du visage, profiter vraiment du paysage, pisser dans l'herbe. En évitant de tirer la chasse, mon côté militant est en état de grâce. Et même sous la pluie, mon air est radieux. Les eaux se marient et je suis un dieu.